Alors vous le voyez à la deuxième bougie qui est allumée, et aussi à ce qu'il y a écrit, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. Alors, on avait vu certaines choses la semaine dernière. On avait vu déjà que le mot « avant », « avent », signifie « la venue ». Et que donc la période de l'Avent est un temps de réflexion qui doit nous préparer à nous souvenir et à nous réjouir de cet événement merveilleux dans l'histoire de l'humanité, la venue du Christ sur terre. Toujours la semaine dernière, nous avions suivi les promesses que Dieu avait faites, tout d'abord à Adam, puis à Abraham, puis à Moïse, et enfin à David. Dans ses promesses, Dieu affirme qu'il ne laissera pas l'homme seul face au mal qu'il a choisi de suivre. Il enverra un sauveur. Un homme viendra détruire le pouvoir que ce mal a sur nous. Et il viendra aussi rétablir la relation que Dieu veut avoir avec les êtres humains. Et nous apprenions petit à petit, en explorant ces différentes promesses qui se précisaient, que ce sauveur devait d'abord venir de la descendance de la femme, puis de la descendance d'Abraham, et enfin de celle de David. Nous apprenions aussi que ce sauveur devait tout d'abord être un homme, puis nous apprenions qu'il serait aussi un prophète, un grand prophète comme Moïse, même plus grand que Moïse. Puis nous apprenions qu'il serait aussi un roi pour l'éternité dans la promesse faite à David. Et enfin, nous découvrions qu'il devrait être le Fils de Dieu en personne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration des promesses de Dieu à ce sujet. Nous allons le faire sous une forme différente de la semaine dernière. Cette fois, nous allons étudier ensemble des textes. Deux textes. Tous deux dans le livre d'Ésaïe. Des textes qui nous parlent plus précisément de ce sauveur qui doit venir, des textes qui nous parlent des circonstances de sa venue et qui nous parlent aussi de sa mission, de ce qu'il viendra faire sur la terre. Je vous invite tout d'abord à commencer par un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, les versets 10 à 14. Texte très connu, je le lis dans la version Semeur. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Ahaz dit « Je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » Alors, dans ce premier texte, Dieu s'adresse au roi de Juda, Ahaz. C'est un roi qui a du mal à faire confiance à Dieu, à croire en lui. Il y a des ennemis qui menacent le royaume. Dieu veut le rassurer, Dieu veut lui donner une ligne de conduite, et lui a du mal à faire confiance, à obéir. Alors Dieu lui dit, « Demande-moi un signe, n'importe lequel. Demande-moi un signe pour te prouver que je suis Dieu. » Comme ça, tu n'auras plus de raison de douter ou d'avoir peur. Et Ahaz donne une réponse qui, au début, nous paraît très humble, très belle. Non, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. Ça semble parfait, très beau comme réponse. Sauf qu'après cette réponse, Dieu s'énerve un petit peu. Il s'énerve un peu parce qu'en fait, c'est de la fausse humilité. Ahaz ne veut pas obéir à Dieu et lui faire confiance. Il ne le veut pas. Il veut continuer à faire ce que lui veut, pas ce que Dieu veut. Sauf que si Dieu lui donne un signe clair, miraculeux, grandiose, une preuve qu'il est Dieu, alors Ahaz sera obligé de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Et ça, il ne le veut pas. Alors, il fait un peu semblant d'être humble devant Dieu et il refuse le signe. Toujours dans ce que nous avions vu la semaine dernière, souvenez-vous, ou pas, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions vu que le grand problème de notre monde, c'est que les hommes ont refusé la relation que Dieu leur proposait. Ils ont refusé de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Ils ont refusé d'accepter la volonté de Dieu. Les hommes ont préféré choisir eux-mêmes ce qui est bien ou mal. Ils ont choisi de vivre selon leurs envies. Ils ont rejeté Dieu et maintenant ils sont condamnés à assumer ce choix, à rester seuls dans leur vie. Ce que fait Ahaz dans ce texte est symptomatique de ce problème. Sa réaction, je trouve, résume très bien le problème de toute l'humanité. Dieu appelle les hommes. Il veut leur faire comprendre qui il est. Il veut se manifester à eux. Il veut se révéler à eux, se faire connaître. Mais les hommes refusent de le voir et de le croire. Alors Dieu précise encore la promesse qu'il avait faite à Adam, à Abraham, à Moïse et à David. Il nous dit qu'un des rôles de ce sauveur à venir sera de faire comprendre aux hommes qui est Dieu. Il sera pour nous un signe qui nous permettra de voir Dieu, de croire en lui. Et le nom que portera ce sauveur est révélateur de cette mission. Il s'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce sauveur sera un signe de la présence de Dieu parmi nous. Il sera Dieu parmi les hommes. Mais le signe ne semble pas si extraordinaire que ça, parce que dans sa promesse, telle que je l'ai lue ce matin, Dieu dit juste qu'une jeune fille sera enceinte et qu'elle enfantera un fils. Une jeune fille qui tombe enceinte, c'est pas super miraculeux. Mais à la base, ce texte est écrit en hébreu, et le mot hébreu qui signifie jeune fille a aussi un autre sens. Il veut aussi dire fille vierge. Et donc il y a tout un débat depuis des siècles, même des millénaires, pour savoir quel est le sens le plus probable ici, parce que le mot peut avoir les deux sens, et les deux en vont bien dans la phrase. Est-ce que c'est jeune fille ou est-ce que c'est vierge ? Le but, vous le savez, c'est de savoir si ce texte annonce déjà la conception virginale du Christ. C'est vrai que si Dieu parle de signes miraculeux, une vierge qui tombe enceinte ou une jeune fille qui tombe enceinte, question miracle, il y en a quand même un des deux qui se détache de l'autre. Mais je ne m'attarde pas non plus sur cette question, parce que c'est pas pour moi, c'est pas le centre de cette promesse. Pour moi, ce que je retiens surtout, c'est que le Sauveur que Dieu promet viendra montrer, révéler Dieu aux hommes. Il sera Dieu parmi nous. Puis le livre d'Ésaïe continue et nous arrivons au chapitre 9 de ce même livre où nous trouvons à nouveau d'autres précisions sur ce que sera cet enfant, ce Sauveur qui doit venir. Et je vous lis les versets 5 et 6 du chapitre 9 d'Ésaïe. Encore un texte très connu. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes, dont son ardent amour. Alors ce texte nous dit certaines choses que nous savons déjà. Nous avions vu, déjà la semaine dernière, dans la promesse faite à David, que le Sauveur serait le Fils de Dieu en personne. Ici, dans cette promesse, nous apprenons qu'il sera appelé Dieu fort. Il sera Dieu, lui-même vivant parmi les hommes. Comme nous l'avons vu juste avant, il sera Dieu avec nous, Emmanuel. Dans cette promesse, toujours faite à David, nous avions appris que ce Sauveur serait aussi le roi du peuple de Dieu pour l'éternité. Ici, on lit qu'il sera prince, que sa souveraineté durera à toujours. Donc dans ce texte, Dieu commence par rappeler ce qu'il a déjà promis par le passé, pour montrer que c'est toujours de la même chose que nous parlons, pour qu'on ne se trompe pas. On parle ici du Sauveur à venir. Mais qu'est-ce que nous apprenons de nouveau sur ce Sauveur dans cette promesse ? Eh bien, j'aimerais souligner deux choses qui me semblent essentielles. Premièrement, ce texte nous dit que ce Sauveur viendra apporter la paix. La paix à tout son royaume, à tout son peuple. Et vous vous souvenez peut-être d'un autre texte qui raconte la naissance de Jésus, un texte où une multitude d'anges apparaissent à des bergers. Et que chante cette multitude d'anges ? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le Sauveur, le Christ, est venu apporter la paix à son peuple, c'est-à-dire à nous. Et cette paix est à plusieurs niveaux. Il nous a tout d'abord apporté la paix avec Dieu. En effet, nous étions en rébellion avec Dieu, contre Dieu. Nous qui le rejetions, il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu régler le problème du mal qui nous séparait de Dieu et il est venu restaurer la relation que nous avions rejetée, cette relation que Dieu veut avoir avec chaque être humain. Le Sauveur est venu nous apporter la paix avec Dieu, pour que la relation que Dieu désire avoir avec chacun d'entre nous devienne enfin réalité. Mais il nous a aussi apporté la paix personnelle, intérieure. Nous étions livrés à nous-mêmes en refusant d'avoir cette relation avec Dieu, en refusant de reconnaître qui il était. Nous étions livrés à nos choix, à nos émotions, à notre intelligence qui reste limitée, à notre compréhension du monde qui elle aussi est limitée. Mais en venant nous montrer qui est Dieu, en nous aidant à le connaître, à le comprendre, en nous aidant à croire en lui, le Christ nous a apporté la paix que procure la foi en Dieu. Cette assurance, cette certitude, à la fois pour notre vie présente, mais aussi jusque dans l'éternité. Cette foi, cette certitude, cette assurance en Dieu nous procure une paix que nous ne pouvons pas connaître lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes. Lorsque nous vivons notre vie en rejetant Dieu et sa volonté, lorsque nous ne savons pas que faire du mal qui est en nous, lorsque nous sommes seuls face à notre culpabilité et face à l'inconnu de notre vie et de ce qui vient après la vie. En nous permettant de connaître Dieu et de croire en lui, le Sauveur est venu nous apporter la paix intérieure en nous-mêmes. Enfin, il est aussi venu apporter la paix entre nous, nous tous. En effet, non seulement il nous a réconciliés avec Dieu et avec nous-mêmes, mais il a fait de ceux qui croient en lui un peuple, son peuple, sa famille, la famille de Dieu. Nous qui n'avions rien en commun, nous qui n'avons a priori aucune raison de nous retrouver tous ensemble ici ce matin, regardez-vous, regardez-vous, qu'est-ce qui nous lie ? j'ai peu de choses en commun avec chacun d'entre vous. Et pas seulement avec vous, mais aussi avec les millions d'autres personnes qui se réunissent comme nous pour adorer Dieu, pour le louer. Mais nous tous qui n'avions rien en commun, il a fait de nous une seule famille, unie en lui, l'Église. Et cela fait partie aussi de l'œuvre de paix que le Sauveur est venu accomplir sur la terre. Nous unir à Dieu, mais aussi nous unir entre nous. Nous sommes unis dès à présent et pour l'éternité, Dieu nous le promet. C'est ce que dit notre texte. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours. Enfin, ce texte nous apprend une dernière chose, par laquelle je vais terminer. Ce texte nous apprend enfin la vraie raison pour laquelle Dieu va envoyer ce Sauveur. C'est vrai, l'homme a rejeté Dieu, volontairement. Mais Dieu aurait très bien pu dire, tant pis pour lui. Qu'il se débrouille. Il veut vivre sans moi, alors qu'il le fasse. Mais Dieu a décidé d'agir au travers de plusieurs milliers d'années avec patience afin de réparer lui-même nos erreurs, pour nous pardonner, pour avoir une relation de paix avec nous et pour nous adopter comme ses enfants. Pourquoi ? Pourquoi ne nous a-t-il pas laissé faire face aux conséquences de nos erreurs ? Pourquoi a-t-il voulu nous sauver en allant jusqu'à envoyer son propre fils sur terre? La réponse se trouve dans la dernière phrase de notre texte. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Dieu nous aime. Il nous a toujours aimés. Et c'est ça le message de Noël. Voilà ce à quoi nous nous préparons spécialement durant la période de l'Avent, remercier Dieu et nous réjouir ensemble de l'amour qu'il a pour nous. Je souhaite que cet amour et cette paix puissent faire partie de votre vie pour l'éternité.